Micro ouvert sur Marmite FM.
Venez faire découvrir vos projets, votre association, vos événements. Le micro est ouvert, vous avez la parole.
Donc en fait, c'est une exposition presque triple parce que...
Le principe, c'est qu'on va mettre des poètes de la musique et...
Et voilà, c'est du jeu de rôle grandeur nature, c'est une enquête policière.
40 personnes qui ont trouvé vraiment l'idée très intéressante.
C'est pour le plaisir du jeu et du temps partagé ensemble.
Micro ouvert sur Marmite FM. Nouradine Anne.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans Micro ouvert, nous vous proposons d'écouter la première des trois parties de l'entretien consacré à Laurent Gabaroum. Ce cadre chez Renault a porté plainte dans les années 80 contre son employeur pour discrimination raciale. Aujourd'hui, l'affaire Gabaroum est portée jusqu'à l'ONU. Une interview de Nouradine Agne.
Laurent Gabaroum et Areske Amazou sont nos invités. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors on va se concentrer sur vous, Laurent Gabaroum, sur votre parcours. Vous êtes un ancien cadre, toujours cadre de Renault. Vous travaillez en tout cas dans cette entreprise depuis 1975. Vous êtes entré dans un combat judiciaire il y a plus de 30 ans contre la firme aux losanges. La raison, vous estimez avoir été discriminé par Renault en raison de la couleur de votre peau. Les auditeurs ne le voient pas, de votre peau noire. Votre premier fait d'armes remonte à l'année 1986. Vous avez fait une grève de la faim suite à votre mise en congé de conversion. Résultat, vous êtes placardisé, comme on dit dans le jargon de l'entreprise. En 2004, vous assignez Renault pour discrimination raciale dans la poursuite de votre carrière. Vous réclamez un peu plus de 280 000 euros d'arriérés de salaire, près de 30 000 euros de complément d'indemnité de congé payé et près de 600 000 euros pour le préjudice matériel et moral. Du côté de Renault, le discours reste inchangé, il n'y a pas eu de discrimination. En 2012, après avoir usé main recours, l'affaire Gabaroum arrive sur le bureau du Comité des droits de l'homme de l'ONU. En 2016, l'ONU vous donne raison, malgré cela, toujours rien de la justice française ou de Renault. Pour bien comprendre l'affaire Gabaroum, nous allons y aller par étapes. D'abord, Laurent Gabaroum, vous êtes originaire, vous, du Tchad. Vous êtes arrivé en France dans les années 70 et vous entrez à Renault en 1975 comme veilleur de nuit.
Oui, moi je suis arrivé en France, j'ai effectué plusieurs séjours déjà en France, quand j'étais encore, étudiant, étudiant, c'est-à-dire que lycéen si vous voulez, puisque je suis issu d'une très très grande famille. Mon père est chef traditionnel, il a 200 femmes au moment de sa mort, et plus de 150 enfants, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des demi-frères. Et mon grand-père est le premier à recevoir le premier colon européen qui est allemand, qui est venu chez nous. Et puis ensuite, mon père a été présent à l'appel du 18 juin 1940.
Du général de Gaulle.
Du général de Gaulle aux côtés du colonel Leclerc à l'époque. Et mon père a été ensuite chargé par le colonel Leclerc de recruter des troupes pour la constitution de la 2e division DB, qui est venue chez...
La fameuse division Leclerc.
La fameuse division Leclerc, et en même temps de cultiver du riz pour nourrir ses soldats. J'ai d'ailleurs trois membres de la famille qui ont été faits compagnons de la libération sur le champ de bataille, puisqu'ils ont été tués pendant les différentes batailles jusqu'en Europe. Voilà pour la famille. Moi, je suis arrivé en France comme pas mal d'étudiants des pays des anciennes colonies, puisqu'à l'époque... Après les indépendances, puisqu'il n'y avait pas d'université dans nos pays d'origine. Au moment où moi, j'avais mon baccalauréat, il n'y avait pas d'université au Tchad. Donc, normalement et naturellement, selon les accords de coopération qui avaient été signés avec les anciennes colonies, on devait venir en France poursuivre nos études supérieures. C'est dans ces conditions que je suis arrivé en France, après un saut au Canada. Mon séjour en France ne s'est pas bien passé sur le plan financier, parce que j'avais, comme beaucoup d'étudiants africains, rencontré quelques difficultés financières pour joindre les deux bouts. Après avoir fait différents types de boulot, balayer le métro, décharger les camions, vendre des fleurs, j'ai eu la chance un jour que mon chemin se soit croisé avec un responsable de Renault qui a accepté de me faire embaucher comme veilleur de nuit pour terminer mes études. Je suis arrivé J'ai poursuivi mes études, je suis arrivé à un niveau de troisième cycle, donc j'ai préparé un DESS. Mais comme j'étais de nuit pour payer mes études, donc j'étais tenu de travailler de nuit. Et j'avais demandé à ce qu'on me permette de passer de jour pour pouvoir suivre mon stage. Donc j'ai demandé simplement un congé sans solde.
Pour pouvoir faire un stage dans le cadre de vos
études. Voilà, pour valider mon DESS de gestion et logistique commerciale. Renaud m'a dit, écoutez, ce diplôme, nous aussi, on a besoin. Donc, on va intervenir auprès de l'Université Paris-Dauphine. Plutôt que d'aller faire ce stage à l'aéroport de Paris, vous le faites dans notre direction, au sein de notre direction. Et à la fin de ce stage qui doit durer 3 mois, au 1er janvier 1983, vous êtes promu cadre. Donc, on s'est entendu.
Donc pour l'instant, tout se passe bien.
Tout se passe bien.
Tout a l'air de bien se passer.
Voilà. 1982-83, oui, voilà. Donc, vous êtes promu cadre. OK, je suis d'accord, aucun problème. On modifie la convention de stage. Et là, Renault refuse de signer la convention de stage qu'elle est intervenue auprès de l'Université Paris-Dauphine pour que ça soit modifié et que ça soit libellé en son nom.
Au nom de l'université.
Au nom
de l'université. Et plus au nom de Renault.
Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis retrouvé dans l'impasse. Puisque l'université, m'ayant trouvé un stage à l'université Paris, à l'aéroport de Paris, et n'étant pas à même d'y aller, l'université, et puis l'initiative venant de Renault, l'université m'a demandé d'aller voir. Et d'essayer de savoir ce qui se passe. J'arrive chez Renault, je pose la question, on me dit mais messieurs, on ne s'était pas entendu comme ça. Il vous appartenait à vous de trouver votre point de chute. Et puis petit à petit, on me tournait en bourricot, comme en quelque sorte en bourrique, quoi. Donc moi, j'ai fini par me poser la question et dit, mais plutôt que de me compliquer la vie, on ressort notre convention de stage. Et l'objet de ma visite initiale étant d'obtenir un congé sans solde, vous m'accordez le congé sans solde puisque...
Et je vais faire mon stage.
Je vais faire mon stage. Là, on me dit non. Maintenant, la seule chose qu'on vous demande, c'est de quitter l'entreprise. Parce que vous faites un diplôme de troisième cycle. Si, au bout de 3 mois à l'issue de votre stage, vous n'êtes pas promu cadre, on nous accuserait de racisme. Donc, pour ne pas être confronté à ce type de problème, nous, on ne vous donnera pas le stage chez nous, puisqu'il n'y a pas de noirs. La politique de l'entreprise, c'est de ne pas promouvoir des noirs au statut cadre. Et puis ensuite, on ne vous donnera pas le congé. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de quitter l'entreprise.
Mais alors, pourquoi ils avaient accepté au début? Parce que c'est eux qui vous proposent ça.
Comme... Non, c'est un jeune qui était venu,
ah, oui,
qui est un jeune qui est arrivé à la direction et qui n'a tenu compte que de mes diplômes et de mes compétences, qui m'a évalué et qui a considéré que je faisais l'affaire et que je pouvais être cadre dans l'entreprise.
Et après, c'est monté à l'échelon supérieur.
C'est monté à l'échelon supérieur et ce sont ses chefs qui lui ont dit que la politique de l'entreprise n'était pas de favoriser l'arrivée des Noirs au sein de l'encadrement de l'entreprise. Et finalement, le monsieur de la fonction personnelle, puisqu'il n'est pas vraiment DRH, m'a reçu en privé. Et il m'a dit, écoutez, moi j'ai essayé de vous aider, maintenant renvoyez-moi l'ascenseur parce que je suis en difficulté. Moi j'ai cru ou j'ai pensé que votre compétence suffisait. Là, on me dit que vous êtes noir et que la politique de l'entreprise ne permet pas d'élever des noirs à un certain niveau de responsabilité au sein de l'entreprise. Donc aidez-moi, quitter l'entreprise dans ces conditions. Vous m'arrangerez beaucoup parce que je risque de payer le contre-coup.
Ça s'appelle un dilemme cornélien.
Voilà.
C'est-à-dire que la personne qui vous a aidé se retrouve un peu dans la panade et vous demande de faire un geste.
Voilà, de faire un geste. Et alors, à partir de ce moment-là, moi, ma première réaction, c'était d'essayer de trouver une porte de sortie. Donc, j'étais prêt à quitter l'entreprise. En regardant un journal, le journal AVEC, qui est le journal interne de l'entreprise, j'ai découvert que mon ancien patron à la surveillance est nommé ou a été nommé directeur du personnel de la compagnie d'affrètement et des transports qui est une filiale de Renault. Je prends le téléphone, je l'appelle, je demande un rendez-vous, il me reçoit. Et je lui dis, écoutez, voilà ma convention de stage, et je lui ai expliqué mon histoire. Il me dit non, vous venez faire le stage chez moi parce que vous vous êtes investi dans une formation que l'entreprise n'a pas payée. Donc là, vous voulez vous mettre au service de l'entreprise. Je ne comprends pas que les gens vous aient traité de la sorte. Donc vous venez travailler avec moi. Je viens, au bout de 3 mois, je termine mon stage. Mais vous allez voir sur la convention de stage, Renault a refusé de signer la convention de stage pour me permettre d'aller dans la filiale. C'est la filiale qui a mis son tampon en lieu et place de Renault pour que je puisse passer faire mon stage. Ce qui rend la convention de stage illicite. Je n'étais pas habilité à passer un stage dans une entreprise qui ne s'est pas désignée comme tuteur de mon stage. Donc voilà, c'est pour dire simplement que Renault, quand Renault dira après que j'ai pu faire le stage que je voulais, c'est faux. Parce que c'est sa signature et Renault avait une direction de la logistique. Et donc, ce n'était pas nécessaire que j'aille faire mon stage dans une filiale. Dans une filiale.
Alors, qu'est-ce qui se passe après ?
Voilà, donc au bout de 3 mois, j'ai fini mon stage et mon évaluation était très bonne. Donc, ils ont considéré que je pouvais, puisqu'on m'avait confié plusieurs dossiers. Et donc, je suis resté au bout de 3 mois, j'ai fini ma mission. Mais en prolongeant mon stage, j'étais plus dans le cadre du stage. Je continuais à être payé, mais je faisais du travail, j'occupais un poste de cadre, mais j'étais payé comme un OS.
Comme un ouvrier spécialisé.
Voilà, comme un ouvrier spécialisé. À l'issue de mon stage, puisque l'accord de Renault a été obtenu pour que je puisse rester pendant les 3 mois, ils ont maintenu la promesse de me promouvoir au statut cadre. Je prends contact avec la direction. On a échangé même des lettres recommandées avec actus de réception. Donc, tout ce que je dis, il y a des preuves écrites. Mmh. Et Renaud qui me dit, la promesse tient toujours, vous allez venir, vous allez être cadre. Mais le jour où je me présente, on me dit non, la promesse ne tient plus. Vous êtes resté longtemps à la CAT. On a pourvu votre poste de nuit. Et on n'a qu'un poste de jour. Donc, on ne peut pas vous mettre de nuit. Or, c'est faux. C'est-à-dire que le principe ou la politique de l'entreprise faisait que ce n'était pas possible que je passe de jour. Pourquoi ? Parce que les surveillants noirs étaient régulièrement agressés par les visiteurs ou même par les salariés quand ils demandaient à contrôler leur pièce d'identité. Donc ce qui faisait que quand l'usine fermait et que certains salariés qui étaient sur les chaînes, les OS, certains salariés noirs qui étaient sur les chaînes et qui voulaient durant cette période à travailler à la surveillance, on les mettait de nuit. Donc les surveillants n'étaient que de nuit. Ça faisait moins de problèmes puisqu'il n'y avait pas de visiteurs à cette heure-là. Donc le fait que moi, on ait décidé de me mettre de jour, c'est faux. Et le poste n'était d'ailleurs pas pourvu puisque je suis resté 1 mois avant qu'on décide de me mettre de jour. Mais mettre de jour par mesure de représailles.
Après, ça, c'était un poste de veilleur, donc ce n'est pas ce que vous vouliez faire. Vous.
Ah oui, c'était, mais là en même temps. Oui, mais en même temps, on a arrêté mes études. Puisque le fait qu'on m'ait demandé de passer de jour, donc je ne pouvais plus aller à l'université, je ne pouvais plus faire des recherches. Alors, je me suis trouvé devant un dilemme et je leur ai demandé si c'était possible, avec l'accord de ma hiérarchie, d'adhérer au congé individuel de formation pour aller suivre une formation de 3e cycle en gestion du personnel des relations sociales à Paris 2 à Sas. Mon employeur, en fonction des règles écrites, aurait dû demander au comité d'entreprise son avis. Là, ils ont tout de suite écarté mon dossier, ils l'ont jeté à la poubelle. Donc la réponse a été négative en disant qu'on ne vous autorise plus cette fois-ci à suivre des cours. C'est terminé. Vous avez assez de diplômes, maintenant il faut travailler.
Donc soit vous acceptez le poste de veilleur de jour,
ou je partais.
Ou vous partez.
Voilà, ou je partais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai attendu un tout petit peu, puisque j'ai mon épouse en même temps qui faisait ses études. Donc, pour disposer des ressources et pouvoir poursuivre ses études, j'étais obligé de faire ce travail-là. Et donc, je me suis retrouvé mis de jour. Et le premier jour, on m'a mis à l'étage du PDG de Renault. J'arrive, je prends mon poste. Et quelques instants après, le PDG qui reçoit une visite d'hommes d'affaires américains et j'échange quelques mots en anglais avec eux. Le PDG qui vient à l'encontre de ses visiteurs
vous trouve en train de parler en anglais.
En anglais,
avec
et il est surpris. Il est surpris.
Comment il s'appelait ce PDG?
Bernard Anon.
Ah, c'est Bernard Anon.
Anon, voilà.
Anon,
voilà. Donc, il est surpris. Il repart avec ses visiteurs. Au bout d'une heure et demie, il les raccompagne. Il s'arrête devant moi et il me demande, mais tout à l'heure, je vous ai entendu parler anglais. Où vous l'avez appris? Ah, moi, je dis, mais c'est dans le cadre de mes études. Il dit, ah! Et puis, on l'appelle. Il repart à son bureau. Au bout d'un quart d'heure, il revient vers moi. Il me dit, ah, j'attendais quelqu'un pour déjeuner. Cette personne s'est décommandée. Allons déjeuner ensemble et vous allez me dire quelles sont les études que vous faites. On va déjeuner avec le PDG. Et je lui explique à peu près...
Votre situation.
Ma situation, les études que j'ai faites. Il me dit, non, il ne croit pas. Il faudrait que je lui apporte...
Des preuves.
Les originaux de ses diplômes. Mmh. Et puis, des copies conformes. C'est ce que j'ai fait. Dès qu'il a vu ses diplômes, il dit, c'est pas possible. Il me dit que je suis victime de racisme. Et c'est la première fois que j'entendais le mot racisme. Et c'est pas moi qui ai accusé Renault de racisme. C'est le PDG de Renault lui-même qui a accusé Renault de racisme. Et donc, il convoque le directeur du personnel ingénieur et cadre. Il convoque le directeur du personnel et des affaires sociales du groupe Renault. Et il convoque ma hiérarchie à son bureau. Et il leur demande s'ils connaissent ma situation. Ils disent non, qu'ils ne connaissent pas ma situation. Alors là, ils ont dit, on va enquêter. Et on vous donnera notre réponse. On s'est séparés. Ils sont allés enquêter. Et puis, ils se sont rendus compte que j'avais fait une demande pour aller suivre une formation de troisième cycle en gestion du personnel à Paris de Assas, qu'ils m'ont refusé. Donc, ils ont... ressusciter ce refus qu'ils l'ont transformé en proposition. Donc, ils ont donné leur accord pour que j'aille suivre cette formation-là. Bon. On a revu le PDG et puis j'ai confirmé que c'était vrai, que j'avais déposé une demande pour aller suivre cette formation-là. Donc, ils m'ont dit, OK, vous pouvez aller. Mais, compte tenu du fait qu'ils ont bloqué le dossier, le délai qui m'était imparti pour déposer ma demande de prise en charge par le fonds GESIF est passé. Donc, l'entreprise a été, d'une certaine manière, contrainte
de
financer la formation, de prendre en charge intégralement ma formation. Voilà, tout simplement parce qu'ils avaient peur de la réaction du PDG et parce que le PDG s'est immixé dans le dossier. Ce stage comportait, cette formation comportait deux stages. Un stage ouvrier et un stage encadrement. Comme l'entreprise payait ma formation... Naturellement, j'étais aussi assujetti à l'obligation de loyauté qui m'interdit d'aller faire un stage dans une autre entreprise. Mm-hmm. Si je devais aller le faire, il faudrait que j'obtienne au préalable l'autorisation de mon entreprise. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il a fallu une heure de temps pour qu'on m'obtienne un stage ouvrier chez Renault. Donc, on m'a affecté dans un atelier où j'étais chargé de faire... des études sur le taylorisme, en quelque sorte, c'est-à-dire le travail à la chaîne. À l'issue de ce stage, j'ai repris mes cours. Et je devais faire maintenant un stage d'encadrement. Mais le stage est intégré dans le cursus pédagogique. Hein, donc, je devais faire un stage encadrement. Et Renaud devait me recevoir. J'arrive à la direction du personnel ingénieur et cadre. On me dit, aucun problème, on vous accueille à telle date. Et c'est telle personne qui doit s'occuper de vous. Bon, je connais le nom de la personne naturellement, mais je ne pourrais pas le dire puisqu'il faut que je préserve son anonymat. Mais c'était une dame, voilà. Et donc, elle m'a reçu, elle m'a dit, écoutez, pas de problème, le jour J vous présentez, c'est telle personne qui va vous recevoir et qui va être votre tuteur durant le stage. Le jour J, je me présente et je vois des gardiens qui viennent à mon rencontre qui me disent, mais votre tuteur, qui doit vous accueillir pour votre stage, est parti en mission de longue durée. Mmh. On nous a chargé de vous le dire. Ah, moi surpris. Alors que la veille encore, on m'a confirmé le stage. Là, maintenant, on me dit que mon tuteur est parti en mission de longue durée. Désolé, je repars vers le métro. Arrivé dans le métro, je me suis rendu compte que je n'avais pas remis ma feuille de présence à Renault. Donc, je reviens sur mes pas et je prends l'ascenseur.
Et là ?
Arrivé à l'étage, et là, je tombe nez à nez
Avec le fameux tuteur qui est censé
qui est parti en mission de longue durée.
C'était finalement une courte durée.
Voilà. La mission. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enfuit, il va se réfugier aux toilettes. Bon, qu'est-ce que je fais? Ma première réaction, je dis, bon, mais peut-être qu'il va pour quelques minutes. Donc, je prends une chaise et je m'assois et je l'attends. Alors, il ouvre la porte, il me regarde, il referme la porte et on est resté comme ça pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, j'ai compris que ma présence le gênait, donc je suis reparti. J'ai repris l'ascenseur, je suis parti. J'ai passé des tests chez Schlumberger et j'ai été admis, donc j'ai effectué...
Une autre grande entreprise.
Voilà, une autre entreprise. Et une entreprise américaine d'ailleurs, et qui travaillait dans le pétrole, l'électronique, l'informatique à l'époque. Donc bon, j'ai fait le stage chez eux et j'ai fini ma scolarité. Au terme de ma scolarité, je devais être promu au statut cadre puisque l'entreprise a couvert toute ma formation. Et comme je suis revenu avec des résultats qui étaient bons, donc il fallait maintenant valider mon passage cadre. Alors le jour J, j'ai l'habitude de déjeuner avec un ami et cet ami me dit, mais écoutez, comme vous partez pour votre entretien, je ne vais pas aller rester seul à la cantine, je vais aller manger dans une brasserie à côté. Et il va dans cette brasserie, il déjeune, et à côté de lui, il y a 2 personnes qui sont en train de déjeuner aussi, mais qui avaient fini de déjeuner et qui devaient se séparer. Alors il y a un qui pose la question à l'autre, qui dit, mais qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Il dit, ah mais je dois recevoir un noir, là paraît-il hyper diplômé. Il dit, la belle époque où on pouvait encore les fouetter. Maintenant, non seulement content de venir manger notre pain, ils veulent nous commander. Moi, tant que je serai en place, cette trahison n'aura pas lieu. Le copain qui se dépêche, il finit son repas, il me cherche, il me dit, mais votre affaire est mal barrée. Ah, je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais hey, on a parlé de toi. Et il me raconte l'histoire. J'ai dit, non, ça fait rien, je vais me présenter au rendez-vous et on verra. Alors, H, je me présente, je frappe, que je vois mon interlocuteur en face, en train de lire un journal, de fumer sa pipe, les 2 pieds sur la table, et qui ne me dit pas un mot.
Qui ne vous regarde pas, quoi.
Voilà, il ne me regarde pas, il continue à lire son journal, et je suis resté debout pendant 15 minutes. Fatigué, je prends une chaise, je m'assois, et j'ouvre un journal, je suis en train de lire aussi le journal, et puis, brusquement, il dit, allez, hop, on passe aux choses sérieuses, il déroule le paperboard, et puis il dit, voilà. Vous avez tel diplôme, tous vos diplômes sont de bons diplômes, de très bons diplômes. Mais le problème, c'est vous, monsieur. Le problème, c'est que vous, vous êtes noir. Et donc, l'entreprise, la politique dans l'entreprise aujourd'hui, c'est de ne pas assurer la promotion des noirs au niveau de l'encadrement. Donc, moi, la seule chose que je peux vous proposer, puisque si vous êtes en France, c'est parce que vous crevez la faim chez vous, donc vous êtes là.
Pour
gagner votre beefsteak, donc pas pour commander les blancs. Donc à partir de ce moment-là, moi, je vais vous aménager un petit poste qui n'est pas un poste de cadre. Vous serez peut-être un jour cadre, vous serez peut-être jamais cadre, mais voilà ce que moi je peux vous proposer. Et je vous donne 48 heures pour me donner votre réponse. Moi, je dis non, mais écoutez, s'il s'agit uniquement de ma couleur de peau, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que vous me permettez de passer un coup de fil? Alors, le PDG, comme il se méfiait d'eux, et ce que je lui avais dit, il n'a pas totalement cru. Donc, il a demandé à son conseiller américain, dont je peux donner le nom, qui s'appelle M. Peter Funk, de suivre le dossier. Et donc, j'ai appelé ce monsieur, je lui ai dit, mais écoutez, voilà, ça recommence. Il va voir le PDG, et le PDG qui dit, mais la discrimination raciale, maintenant, ça recommence. OK. Il prend le téléphone, il appelle le directeur, du personnel ingénieur et cadre qui arrive tout essoufflé dans le bureau après et qui 15 minutes après mon passage cadre est effectif et je me retrouve à la direction du personnel ingénieur et cadre.
On est en quelle année là? 1980
1er janvier 1985.
85.
Et depuis 1945, je suis le premier noir à mettre pied dans cette direction et à occuper un poste dans cette direction. Avant moi, il n'y en avait pas. Depuis 1945. C'est-à-dire depuis la nationalisation de Renault.
De Renault, ouais.
Voilà. Donc, j'étais une surprise. Je venais de débarquer d'une autre planète. Les gens me regardaient assez curieusement. Bon, mais 15 jours après, le PDG a été remercié. Il est parti et moi, je me retrouve au personnel non affecté. Puisque le projet...
Dès que le PDG a été remercié,
automatiquement
on vous a mis...
Au personnel non affecté. Donc, j'ai tout de suite été victime de discrimination déjà. Puisque au-delà des deux stages qu'on m'avait refusés et qui sont matérialisés par des éléments de preuve dont je dispose, là, on m'a mis au personnel non affecté alors que la convention collective l'interdit. Après ça, j'ai été envoyé pour suivre une formation et pour le code ethnique. C'est-à-dire que je dois créer des codes ethniques qui devaient permettre de discriminer des salariés en fonction de leur origine.
Donc ça, c'est ce qu'on vous... ça, c'est incroyable. Donc on vous dit, vous êtes déjà un peu mis au placard, on va dire. Parce que vous ne bénéficiez plus, on va dire, de la protection du PDG qui vous a aidé.
Voilà.
Qui n'a pas regardé votre couleur de peau, qui vous a dit, elle a les diplômes, faites-le travailler, ou sinon ça va mal aller pour vous.
Voilà.
Donc vous y allez, le PDG est remercié 15 jours plus tard, on vous met un petit peu au placard, et finalement, on vous propose une formation pour mettre en place des codes ethniques.
Voilà, mais ça dit que le fait de mettre au placard, ça veut dire quoi? Ça dit que je n'ai pas de fonction exercée. Oui. Même si ce sont des postes qui sont vacants auprès de qui, en fait, dans lequel on aurait pu me confirmer, ils l'ont pas fait. Ils m'ont maintenu, mais non titularisé dans le poste, alors que le poste j'aurais pu l'occuper. Ouais. Mais j'exerce des fonctions, ça signifie simplement, c'est pour me discriminer financièrement, parce que si on me donne pas une fonction exercée, je n'ai pas droit à la promotion. Ouais. Ça dit chaque année, les autres peuvent évoluer, mais moi non. Voilà, je suis au personnel non affecté. Mais ils savaient aussi en même temps, ce que j'ignorais à l'époque, c'est qu'il y a un plan de licenciement économique qui était en préparation. Donc, en me mettant au personnel non affecté, j'étais automatiquement un salarié excédentaire et donc potentiellement licenciable. Et comme ils ne pouvaient pas me licencier, donc ils attendaient cette opportunité pour que le plan soit validé par l'administration. Et une fois que c'est validé, ils avaient le feu vert et ils pouvaient me mettre dans la charrette. Donc, c'est ce qu'ils ont attendu. Ils ont attendu, mais entre-temps...
Vous avez eu le temps de faire votre formation ?
J'ai eu le temps de faire ma formation. J'ai eu le temps de revenir dans l'entreprise et de mettre en œuvre ce que j'ai appris. Donc, faire la sélection des salariés qui devaient être licenciés en fonction de leur origine. Et puis, au bout du compte, un jour, on me convoque, au terme d'un an et demi à peu près, on m'appelle un soir et puis on me dit, mais quelle est votre nationalité? Moi, je dis, j'ai la nationalité française puisque je suis né dans un territoire français pendant la période coloniale, donc je suis français de souche, entre guillemets, en rigolant un tout petit peu, puisque je suis né français, mais dans un territoire français, donc sous le drapeau français, donc je peux revendiquer la citoyenneté française. Il me laisse partir. Il me dit, c'est bien. Et puis, le lendemain, on me dit, est-ce que vous êtes disponible à 19h? J'ai dit, oui, je serai là à 19h. Et c'est le directeur adjoint du personnel ingénieur et cadre qui me convoque et qui me dit, est-ce que vous n'avez pas la double nationalité? Je lui dis, non, mais je n'ai pas la double nationalité. Et puis, en le quittant, je trouve la question grotesque et j'éclate de rire. Et puis il me dit, revenez monsieur. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Il dit, on va se parler d'homme à homme. On va se parler d'homme à homme. Avec la gueule que vous avez, la poule n'a jamais pondu d'œuf noir. Vous savez très bien. Pour être français, il faut être blanc. Vous êtes noir. Donc vous ne pouvez pas être français. Et nous, en essayant de vous proposer une solution où on était en train de rechercher une solution positive pour vous qui vous aurait permis de bénéficier d'une caillotte de rentrer chez vous et avec tous les diplômes que vous avez la chance, c'est sûr, d'être ministre et pourquoi pas président, ce que vous ne serez jamais en France. Et donc là, vous nous faites valoir votre nationalité française pour nous. Il ne faut pas se perdre en illusion.
Voilà, donc, on vous a proposé une somme d'argent, c'est-à-dire comme une sorte de retour au pays.
Voilà.
C'est-à-dire, on vous propose une somme d'argent, on vous paye un billet d'avion peut-être.
Voilà.
Et vous retournez au Tchad.
Voilà, d'oublier ma nationalité française.
Pour faire.
Et d'être dans la charrette des travailleurs immigrés, de prendre la caillotte et de partir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, automatiquement, je suis un peu choqué de ce qui se passe, puisque entre-temps, je suis le responsable de la bourse de l'emploi. Et donc, le responsable de la bourse de l'emploi, tous les emplois ingénieurs et cadres disponibles dans le groupe transitent par moi.
Donc, vous voyez tous les postes disponibles.
Tous les postes disponibles. Et le poste à la paie s'est libéré aussi. Et j'étais le seul candidat. Donc, on m'a dit non, qu'on ne me donnera pas ce poste-là tant que les blancs ne seront pas placés. Et donc, on m'a refusé le poste et on me dit, normalement, les noirs, essentiellement africains, n'auraient pas dû faire des études économiques ou juridiques. Ils doivent uniquement faire des études d'agronome pour aller nourrir leurs frères affamés. Et que dans ces conditions-là, comme moi j'ai fait des études économiques et juridiques, ils vont me reconvertir en agriculture pour me renvoyer en Afrique pour contribuer...
Au développement de l'Afrique.
Non, pas au développement de l'Afrique, mais à arrêter la famine en Afrique. Arrêter la famine en Afrique. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et donc, dans ces conditions, ils vont me tailler un programme sur mesure et ils vont me renvoyer en Afrique, que je veuille ou pas.
Donc, c'est là que s'enclenche la grève de la faim.
Donc, moi, j'ai écrit au MRAP. Ils n'ont pas nié, puisque aujourd'hui, ils disent que non, c'est pas vrai, ils ne me discriminent pas, que c'est faux, c'est ceci, cela. Mais quand j'ai écrit au MRAP, le MRAP leur a écrit. Ils n'ont jamais nié. Quand j'ai donné une interview... À cette époque-là, il suffit d'aller sur...
On va l'écouter, justement.
Voilà. Ils n'ont jamais nié. Ils n'ont jamais nié qu'il n'y a pas de discrimination raciale. Aujourd'hui, ils essayent de dire que non, il n'y a pas de discrimination raciale, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais toujours est-il qu'ils ont tenu leur promesse, puisque tout ce qu'ils ont promis est ce que je dis aujourd'hui. Ils ont même dit qu'il y a une secrétaire qui s'est trompée et qui, en regardant mon visage de noir, a cru qu'un noir ne pouvait pas être français. Donc, il m'a mis dans le lot
des immigrés,
et c'est la raison pour laquelle on m'a proposé l'aide au retour au pays. Or, on sait que l'aide, c'est du volontariat. Et une secrétaire ne peut pas se tromper et me mettre dans un lot.
Puisque vous ne vous êtes pas présenté.
Je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat, et ma nationalité française m'empêchait d'y aller. Parce que pour que je puisse remplir le formulaire, on me demande quand même ma carte de séjour. Et donc là, on ne peut pas dire qu'on se s'est trompé. Et même si on se trompait, on se serait rattrapé. Mais toujours est-il que moi, j'ai pris des précautions. Puisque je suis venu avec un responsable syndical de la CGT.
De la CGT que vous soutenez.
Et un responsable syndical de la CFDT. Mmh. Il y avait deux personnes qui m'avaient accompagné. Et donc, on a eu un entretien avec les responsables de la direction du personnel des ressources humaines. Et moi, je leur ai apporté le listing des pièces disponibles dans le groupe. J'ai dit, voilà, tous les postes qui sont disponibles. Des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise, vous pouvez les licencier en disant qu'il n'y avait pas de poste pour eux. Mais moi, je suis le responsable de la bourse de l'emploi.
Donc je
voilà
vois
les postes disponibles. Mais je leur ai montré. Et j'ai dit, voilà, tel poste, je peux postuler à ces postes-là.
Mais ça n'a rien changé.
Non, ils ont dit oui qu'ils vont aller voir, mais ils ne l'ont pas fait. J'aurais dû même être chef du personnel à la Soresco, par exemple. Mmh. Il y avait un poste qui était libre et je voulais postuler à ce poste-là et ils me l'ont refusé parce que leur objectif, c'était simplement me contraindre ou m'obliger à retourner à tout prix en Afrique. Voilà. C'était leur seul credo.
Voilà, si vous voulez réécouter cette interview, rendez-vous sur le site de la radio marmitefm.canalblog.com dans la rubrique Micro ouvert. Les deux prochaines parties arrivent très vite. Merci à tous.
C'était Micro ouvert,
présenté par Nouradine Anne. Une chose à nous dire ? C'est simple, le micro est ouvert sur Marmite FM.